le rayon BD. Pour qui voteront les super-héros cette année?
I don't know. I took it, I said, I felt like Superman. You know, I said, let me at him.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Rayon BD, l'émission de bande dessinée de France Culture. L'élection américaine, un enjeu mondial, c'est le titre de la programmation spéciale que France Culture a initiée lundi dernier et qui durera jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Le cours de l'histoire, les chemins de la philosophie, les pieds sur terre, la compagnie des œuvres, la série documentaire vous ont proposé ces derniers jours un menu King Size USA dont vous pouvez retrouver tous les détails sur le site de France Culture. Un menu d'émissions quotidiennes et d'hebdomadaires du week-end. Hier, plan large, l'émission de cinéma d'Antoine Guillot était consacrée à la figure de Sylvester Stallone. Et aujourd'hui, dans le rayon BD, nous allons nous demander pour qui vont voter les super-héros cette année. Il y a quelques semaines, Donald Trump sortait de l'hôpital après avoir vaincu le Covid et on sait qu'il a un moment envisagé de se présenter aux caméras vêtu d'un t-shirt Superman. Cette semaine, Captain America, la Veuve Noire, Hulk et les autres Avengers ont participé à une collecte de fonds pour Joe Biden. Ou peut-être étaient-ce les acteurs qui les incarnent à l'écran, on ne sait plus très bien. Quoi qu'il en soit, les super-héros et la mythologie contemporaine qu'ils ont constituée sont omniprésents dans la société américaine. Et la fiction et la réalité ont parfois tendance à se mélanger. La mort de Chadwick Boseman, l'auteur de Black Panther, le 29 août dernier, a illustré parfaitement cette fusion ou cette confusion. Au cœur du mouvement Black Lives Matter, on pouvait se demander si c'était lui qui était honoré ou le prince T'Challa, souverain du Wakanda. Le genre super-héroïque est-il porteur d'une idéologie? Les super-héros ont-ils une conscience politique? Si oui, qui la leur donne? Cette conscience est-elle figée ou évolue-t-elle au fil des années? Nous tenterons de répondre à ces questions avec nos deux invités aujourd'hui. Camille Borin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur d'une thèse en art et littérature intitulée « Le métacomique, la réflexivité dans le comic book de super-héros contemporains ». Et vous avez récemment publié aux éditions Aédon un essai sur Robin, l'acolyte de Batman. Robin, enfance et super-héros. En deux mots, Camille Borin, pour qu'on comprenne un peu ce dont on va parler aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le métacomique?
Alors, le métacomique, en gros, c'est une tendance dans les comics contemporains à déconstruire la figure du super-héros, à la fois sur le plan idéologique et esthétique.
D'accord, très bien. On en parlera donc tout à l'heure. Et avec nous en duplex, William Blanc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, médiéviste, chercheur à l'EHESS au laboratoire GAOM. On dirait le nom d'un super-vilain, mais en fait, ça veut dire « Groupe d'anthropologie historique de l'Occident médiéval ». Et vous êtes auteur aux éditions Libertalia d'un livre intitulé « Super-héros, une histoire politique ». Alors pour vous aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour savoir un peu d'où vous parlez, comment est-ce que vous êtes passé des études sur le Moyen-Âge aux études sur les super-héros?
En fait, je me suis peu à peu intéressé aux représentations du Moyen-Âge dans la culture populaire, en fait, contemporaine, qu'on appelle le médiévalisme. Et tout bêtement, en fait, c'est très présent dans le monde des super-héros. Il suffit de prendre, par exemple, le premier surnom de Batman. Donc, c'est Batman, c'est le Chevalier Noir. Et d'ailleurs, Robin, hein, le nom de Robin, hein, c'était affirmé dès le début, vient de Robin des Bois. Donc, vous voyez, vous avez un exemple, des exemples comme ça, qu'il est intéressant de creuser parce que ça révèle beaucoup de choses sur les super-héros.
La ville de Gotham est fière qu'un citoyen ordinaire cherche à défendre ce qui est juste.
Gotham a besoin de héros comme vous, des représentants élus, pas d'un homme qui se croit au-dessus
exactement.
Des lois.
Exactement. Qui a nommé le Batman?
Mais c'est nous.
Nous tous qui n'avons pas bougé et laissé le rebut contrôler notre ville.
Mais vous êtes une démocratie.
Quand les ennemis étaient à leur porte, les Romains suspendaient la démocratie et nommaient un homme pour protéger la cité.
Vois-tu, celui qui contrôle la technologie contrôle le monde. L'Empire romain dominait le monde parce qu'il construisait des routes. L'Empire britannique dirigeait le monde parce qu'il construisait des bateaux. L'Amérique, la bombe atomique, etc. Et j'en passe. Et moi, je veux ce que Prométhée voulait.
C'est génial, Lex. Mais tu n'es pas un dieu.
Ellis Island, qui fut le port d'arrivée de centaines de milliers d'immigrés aux États-Unis, va rouvrir ses portes. Les préparatifs pour le sommet des Nations Unies sont en voie d'aboutissement.
Le monde change de visage. Bientôt, il ne restera que les conquis et les conquérants. Step into the spotlight. Tu es un homme bon qui a bon cœur. Et il est difficile pour un homme bon d'être roi.
Les dirigeants de tous les experts aborderont de nombreux sujets, de la conjoncture économique au désarmement, en passant par le phénomène des mutants et ses répercussions internationales. Une question dont nombre de législateurs américains souhaitent faire le thème central d'une réunion qui, à première vue, devait rester strictement protocolaire.
Des extraits de films hollywoodiens, Batman, Superman, Black Panther et les X-Men, des films de ces dernières années, dans un petit montage d'Alexandre Manzanares, notre réalisateur. Ça montre, s'il en était besoin, que les questions politiques, la question de l'autorité, la question de la représentation et aussi les références historiques sont au cœur de ces histoires de super-héros. Alors on ne va pas faire la liste de tous les super-héros pour essayer de deviner leur vote, mais on va commencer quand même par le commencement. 1938, William Blanc, c'est la naissance de Superman. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'origine, Superman était de gauche?
En fait, oui. Enfin, je pense que là, très nettement, quand les comics, quand on commence à créer les super-héros dans les comics, donc dans les bandes dessinées, en fait, hein, les auteurs et même les éditeurs de ce nouveau type hein, de personnages sont en grande partie issus de l'immigration, notamment de l'immigration juive récente, hein, juif ashkénaz. Par exemple, les deux créateurs de Superman, Siegel et Shuster, hein, sont deux juifs d'origine européenne. Et donc, quand ils créent Superman, c'est pas du tout pour, comme ça va être dit plus tard, pour créer un surhomme sur le mode nazi, en fait. Hein. C'est au contraire pour dire, en gros, l'humanité, un jour, va arriver à un mieux grâce à la science, grâce à la technologie, un mieux qui va être aussi un mieux social, un mieux politique. Et ce mieux, cette espèce d'utopie-là, est incarné par Superman. Il y a aussi l'idée que Superman est un immigré, un migrant hein, qui débarque sur la planète Terre. Et évidemment, il débarque aux États-Unis hein, quand il est encore enfant et il est accueilli hein, dans une famille américaine typique. Donc, on a aussi l'image en fait du melting pot à travers Superman. Donc, très nettement, dès le début, Superman est perçu comme un héros de gauche qui s'inscrit vraiment dans l'époque rooseveltienne, hein, comme le New Deal, des choses comme ça. Tout. Donc, il y a vraiment cette idée-là qui est très présente dans Superman. Après, hein, il y a d'autres auteurs qui vont le reprendre. Hein, et puis qui vont modifier aussi en fonction des époques, hein, qui vont modifier aussi ce propos-là, hein, c'est une évidence.
Voilà, on verra comment les choses ont évolué. Alors Camille Borin, l'autre grand héros de DC Comics qui est créé l'année d'après, en 1939, c'est Batman. Batman, c'est un riche, enfin Bruce Wayne, c'est un riche héritier, on le suppose plus volontiers capitaliste, mais certains ont dit aussi que Batman était un héros carrément réactionnaire. C'est souvent comme ça qu'on le présente, donc là, vraiment plutôt d'une droite assez dure. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, ça dépend beaucoup des auteurs qui ont travaillé dessus. Après, ce qui est intéressant, c'est que le super-héros, c'est deux identités. Vous avez l'identité civile et l'identité super-héroïque. Batman, sous son masque, c'est Bruce Wayne. Et déjà, rien que ça, je trouve que ça, les deux ne renvoient pas forcément la même idéologie. Vous avez effectivement un Batman qui, par exemple, chez Frank Miller, est très réactionnaire, dans une veine qui s'est développée ces dernières années, où il est devenu très ultra-sécuritaire. Et au contraire, vous avez un Bruce Wayne qui est dans une logique peut-être un peu libérale, mais qui en même temps a une conscience sociale peut-être un peu plus développée, comme on peut le voir, par exemple, il est attaché à fonder des écoles pour les orphelins, enfin il est dans une politique plus sociale, mais qui diffère un peu de ses actes quand il s'habille en Batman.
Alors Frank Miller, que vous évoquez, c'est le milieu des années 80, il reprend Batman à ce moment-là, et il va redonner une force à Batman après les séries télé en particulier qu'il avait rendu un peu un personnage comique ou humoristique. William Blanc, vous évoquiez aussi cette succession d'auteurs. Est-ce que les super-héros ont une identité qui leur est propre? Est-ce que si on veut leur prêter des intentions politiques, il faut d'abord chercher du côté de celles de leurs auteurs successifs? Ou est-ce que il y a des constantes? Et en particulier, est-ce que les éditeurs ont une responsabilité dans la question de ces consciences politiques?
Alors ça fait beaucoup de questions, mais en fait je pense que la réponse à toutes c'est oui. En fait ça dépend, en fait tout dépend du contexte, de l'auteur. Quand vous avez quelqu'un du calibre de Frank Miller qui reprend un Batman, il a suffisamment de poids, en plus on est au milieu des années 80 où les auteurs commencent à avoir de l'indépendance, pour imposer sa ligne de vue sur Batman quand il fait sa BD The Dark Knight en 86. Voilà, après Il y a aussi dans les années 50, c'est pas le même rapport de force entre les auteurs et les éditeurs de comics. Hein. Les auteurs sont considérés à l'époque comme des tâcherons qui doivent faire des histoires et tout. Ce qui n'empêche pas certains auteurs. Si on prend encore une fois le cas de Batman, hein, il y a des images dans certains Batman des années 50, on voit Batman et Robin avoir être dans le même lit côte à côte, être quasiment nus côte à côte. Alors est-ce que on se pose encore la question sans avoir vraiment la réponse, est-ce que certains auteurs ont voulu faire passer une imagerie LGBT à l'époque, alors qu'à l'époque c'était très mal vu et même réprimé par la loi. Ça c'est des questions qui sont assez complexes. Il y a des continuités chez les super-héros. Après, ça n'empêche pas certains auteurs de prendre des libertés et puis de modifier aussi les personnages en fonction des époques. Hein. Quand vous allez avoir un Captain America comme il est repris au début des années 40, c'est pas le même au début des années 80 et c'est encore moins le même au début des années 2000. Au début des années 2000 puis 2010, hein, on a vraiment un changement qui est dû au contexte en fait politique et social, très nettement.
Camille Borin sur Captain America, que vous connaissez bien, et qui est né alors lui aussi à peu près à la même période, c'est-à-dire pendant la Seconde Guerre mondiale, en 41.
Ouais, fin 40, début 41, ouais.
La première image, on la connaît bien, c'est Captain America qui donne un coup de poing à Hitler, et c'est un personnage donc qui se situe encore dans un autre rapport au pouvoir que Batman ou que Superman, et qui a lui aussi une évolution, et vous me disiez tout à l'heure avant l'émission que le Captain America totalement actuel est quelqu'un qui vous intéresse beaucoup. Parlez-nous de Captain America d'aujourd'hui.
Ouais, alors ce qui m'intéresse déjà, c'est qu'à la base, Captain America, donc qui a été créé fin 40, début 41, est parti combattre les nazis avant même les États-Unis. Et d'une certaine manière, met en lumière aussi une période aux États-Unis qui était pas mal, où l'isolationnisme était
la doctrine en vigueur.
En tout cas, c'était en question. De fait, de cette période jusqu'à aujourd'hui, il n'a cessé d'interroger la définition du patriotisme. Est-ce que le patriotisme, c'est censé suivre l'idéologie dominante et donc la politique des gouvernements? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il n'y a pas un patriotisme plus profond qui transcende en fait cette question politique? Et depuis que Donald Trump est au pouvoir, et même avant, pendant la campagne entre Donald Trump et Hillary Clinton, cette question est de plus en plus mise en évidence dans les aventures de Captain America, qui au moment, par exemple, de l'élection de Trump, a été manipulé par une cellule nazie. Il était lui-même persuadé en fait d'être depuis le début un espion nazi, et il a fondé en fait, au moment où Trump était élu, une dictature nazie dans l'univers Marvel en fait. Et qui disait bien ce côté cauchemar américain que pouvait refléter le personnage, en fait.
Et alors, est-ce que ça veut dire que ces super-héros sont d'une certaine façon des coquilles vides et qu'on met absolument ce qu'on veut à l'intérieur ?
Je pense que c'est une métaphore filée. En fait, ça questionne une société qui est en permanente évolution. Le patriotisme des années 40, est-ce que c'est le même qu'aujourd'hui ? Est-ce que l'Amérique des années 40 est la même qu'aujourd'hui ? Est-ce que d'ailleurs il n'y a qu'une seule Amérique ? Moi, je pense que c'est toutes ces questions-là qui se posent à travers les super-héros et aussi à travers leur faculté à se disséminer en jumeaux, tantôt maléfiques, tantôt bénéfiques, qui renvoient comme ça plusieurs facettes différentes de l'Amérique, en fait.
William Blanc, sur cette question des super-héros qui seraient donc une métaphore filée, est-ce qu'on peut reconstituer un trajet
Oui, alors ça c'est très intéressant en fait, on évoque notamment Secret Empire, donc voilà, où le Captain America en effet prend le pouvoir et instaure une dictature fasciste en fait aux États-Unis. C'est pas nouveau en fait, hein. Captain America a souvent été en fait une espèce d'imagerie qui renvoyait à un patriotisme, mais Roosevelt, tiens, c'est en fait un patriotisme de gauche où on dit en gros la nation est ouverte à tout le monde, qui on oppose en fait à un patriotisme en fait ou à une forme de nationalisme, hein, notamment au nationalisme blanc aux États-Unis. Depuis les années 60, hein, Captain America est confronté à des doubles, et souvent les doubles auxquels s'affronte Captain America sont des doubles qui eux-mêmes ont pris un chemin, par exemple, proche du nationalisme blanc. Donc c'est extrêmement intéressant, parce qu'on dit souvent que les super-héros incarnent l'individualisme américain. C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a aussi dans les super-héros, il y a des groupes de super-héros. Le premier groupe de super-héros apparaît en 41, la Justice Society of America, où notamment auquel appartient Wonder Woman par exemple, et qui d'ailleurs c'est par hasard, hein, se rassemble autour d'une table ronde, hein,
et la geste arthurienne est encore là.
Exactement, c'est là, c'est le clin d'œil est assez évident. Et ce qui est assez frappant, c'est que dès le début, en fait, il y a des débats, en fait, pour savoir comment va s'organiser cette collectivité de super-héros, cette collectivité d'individus. Et à travers ce débat-là, évidemment, il y a le débat américain. Comment est-ce qu'on crée une société? Comment est-ce qu'on fait une société? Notamment dans une société qui se voit comme une perpétuelle expérience. Et là où c'est intéressant, c'est que les équipes de super-héros vont peu à peu s'ouvrir aux personnages féminins, avec Wonder Woman, mais aussi à des personnages issus de la diversité et tout. Et il y a constamment cette idée-là, en fait. Il y a toujours cette idée, voilà, que représente le groupe de super-héros, en fait. Et en fait, il y a le groupe de super-héros renvoie à chaque fois donc à ce débat social aux États-Unis.
Vous évoquez William Blanc, les autres, les minorités qui arrivent dans les super-héros. Ça, c'est surtout visible à partir des années 60, ce qu'on appelle le deuxième, enfin l'âge d'argent d'Alan Comics. L'âge d'or, c'est la naissance jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'âge d'argent, c'est la firme Marvel qui se développe avec des auteurs comme Stan Lee, Steve Ditko, Jack Kirby, qui sont eux aussi souvent issus de l'immigration juive d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, et qui s'engagent encore plus que les premiers, puisque Stan Lee, par exemple, signe des éditos dans Marvel où il prend parti en son nom pour les droits civiques, peut-être même contre la guerre du Vietnam. Est-ce que ces années 60 marquent un tournant ou marquent une politisation plus forte de l'univers des super-héros en général?
Alors, oui, ça, c'est une évidence, parce que d'autant plus que là, l'Amérique est traversée par une crise très forte avec la guerre du Vietnam. Hein, donc, alors, attention, enfin, il y a... Au début, par exemple, de l'engagement du Vietnam, au Vietnam, les super-héros, enfin, comme une grande partie de la société américaine, est pour cet engagement. Vous allez avoir, par exemple, Iron Man ou Thor, qui vont aller détruire régulièrement des super-vilains communistes et tout. Donc là, il n'y a pas. Mais en fait, petit à petit, en fait, avec la société américaine, le discours il évolue, en fait. Donc il y a une espèce de caisse de résonance qui se fait, ce qui fait que, par exemple, on va avoir en effet, notamment avec la lutte des droits civiques pour les Afro-Américains, on va avoir l'apparition de super-héros en fait noirs. Donc soit africains comme Black Panther, soit Afro-Américains comme The Falcon, qui va être un compagnon de route en fait de Captain America, et même d'ailleurs au point aujourd'hui de prendre son costume. Et puis on va aussi avoir encore une fois des personnages féminins qui vont apparaître, qui vont être de plus en plus nombreux. Et puis on va aussi avoir tout un débat par rapport à la guerre du Vietnam. Je pense que le point peut-être le plus fort de ce débat-là, c'est justement la première version de Secret Empire. Donc on en parlait tout à l'heure. Donc Secret Empire, c'est un comics qui se passe qui est sorti en 2017 avec Captain America, mais il y a une première version qui a été publiée en 1974, où Captain America remonte à une espèce de complot qui essaye de détruire l'Amérique. Et il arrive au chef du complot, et le chef du complot se trouve à la Maison Blanche. On ne sait pas qui c'est, on voit juste que Captain America finit par le trouver, le démasquer, et quand il le démasque, il dit « Mon Dieu, c'est vous ». On n'en sait pas plus, parce que ce chef se suicide, mais tous les lecteurs à l'époque comprennent qu'en fait, c'est une allusion à Nixon, en fait, qui a trahi donc son serment, en fait, lorsqu'il a devenu président, en trichant sur les élections, voilà, donc avec l'affaire du Watergate. Donc, en effet, il y a une très forte politisation des super-héros, qui à mon avis va après retomber un petit peu dans les années 80 et dans les années 90 pour remonter à partir des années 2000, notamment avec la guerre en Irak.
Il me semble aussi qu'il y a un facteur qui est à prendre en compte, c'est l'évolution du lectorat aussi qui lit des comics, parce qu'à partir des années 60, on se rend compte qu'il y a un public de plus en plus adolescent et estudiantin, qui cristallise aussi, par exemple, à travers le mouvement hippie, qui véhicule en fait la contestation américaine, qu'on va retrouver aussi au moment de la guerre du Vietnam. On a aussi l'influence de la BD underground, qui a une forme de dont l'irrévérence en fait se transforme chez les super-héros vers un discours protestataire. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a à cette époque des personnages adolescents qui sont créés, type Spider-Man ou les X-Men, qui renvoient comme ça à une image davantage du freak rejeté par la société qu'une image traditionnelle de super-héros en fait. Est-ce qu'on peut dire, Camille Borin, qu'Hollywood a changé quelque chose? Vous évoquiez cette contre-culture. Il y a cette tension dans les comics, et dans les comics de super-héros peut-être en particulier, qui est d'être à la fois une contre-culture, ou une culture qui a quelque chose à voir avec l'underground, et à la fois une culture de masse qui écrase tout. Hollywood incarne ça peut-être plus que tout le reste. Est-ce que les films hollywoodiens ont appauvri cette question politique chez les super-héros ?
Alors moi, ma lecture de tout ça, c'est qu'en fait, le succès incroyable des films de super-héros a tendance à renforcer la dimension contre-culturelle des comics d'origine.
C'est-à-dire des bandes dessinées ?
Ouais, des bandes dessinées, c'est-à-dire qu'on a des films qui sont quand même, d'un point de vue politique, assez aseptisés. Tandis que chez les comics, dans les comics, au contraire, on va avoir une réflexion beaucoup plus poussée sur ces questions-là. Par exemple, au moment où le film Black Panther est sorti, tout le monde s'extasiait du fait qu'il y ait un super-héros noir. Or, cette question-là des minorités, elle est présente depuis au moins les années 60. Et elle ressurgit en plus d'autant plus ces dernières années, avec la création d'un second Spider-Man qui s'appelle Miles Morales, qui est d'origine hispanique et africaine, et surtout la fameuse Miss Marvel, qui est une super-héroïne musulmane, et qui a été primée d'ailleurs à Angoulême récemment.
William Blanc, sur cette question de la tension entre culture de masse et culture underground, est-ce que, en effet, il y a quelque chose de l'underground dans ces lectures?
C'est intéressant, parce qu'en effet, c'est une tension qui est très forte, parce qu'il ne faut pas oublier que même si, évidemment, par exemple, les éditeurs comme Stan Lee sont des gens qui vont avoir aussi des idées politiques et tout, c'est aussi des gens qui pensent à leur dollar, en fait, hein, faut être clair. Donc, en effet, il y a aussi l'idée de plaire à un lectorat nouveau. Hein. Quand on met en place des super-héros noirs, en fait, hein, c'est qu'on a pleinement conscience chez Marvel qu'il y a maintenant un public noir qui commence à avoir des sous, qui a envie de lire des comics, et donc on lui fournit des super-héros, en fait. Donc ça, c'est une évidence. Sur les films, je serais peut-être un peu moins critique, parce que moi, je pense à un film comme Captain America The Winter Soldier, donc le soldat de l'hiver qui est sorti en 2015. C'est hyper intéressant parce que les deux réalisateurs, je crois que c'est les frères Russo, si je me souviens bien, on dit ouvertement, parce que dans le film, clairement, on a une espèce de super agence, hein, de un super service secret qui s'appelle le SHIELD, qui en fait s'avère en fait être complètement infiltré par des nazis, en fait, hein, concrètement, et qui utilise en fait une espèce de technologie de surveillance hyper dangereuse, en fait, hein, pour contrôler le monde, en fait, hein, donc. Et à travers ce film, les Russo ont dit eux-mêmes qu'ils voulaient critiquer en fait toutes les dérives de la communauté de ce qu'on appelle l'intelligence community, donc la communauté des services secrets américains, notamment à partir du début du XXIe siècle, avec le vote du Patriot Act, hein, qui leur permettait en fait de prendre et d'espionner, en fait, limite, enfin, y compris le public américain. Donc il y a dans les films Marvel grand public, il y a aussi des réflexions politiques qui sont peut-être pas évidentes pour un public européen, mais qui le sont assez nettement, je pense, que pour un public américain. Hein, c'est pareil quand il y a Civil War, hein, qui oppose donc Captain America et Iron Man. Il y a vraiment on est dans un débat très américain entre, d'un côté, ceux qui veulent un État très fort, voire très intrusif, hein, notamment du côté sécuritaire, comme Iron Man, ou Captain America, qui est plus, lui, dans un côté représenté à la fois les libertariens, mais aussi une partie de la gauche, qui disent, attendez, l'État fédéral, il doit protéger, certes, mais il doit pas être intrusif, il doit pas envahir nos vies privées, quoi. Voilà, ces discours politiques qui sont présents dans les films. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait un effet d'entraînement après, parce qu'en effet, les gens vont lire les comics qui ont inspiré ces films-là. Et où là, pour le coup, le propos est parfois beaucoup plus fouillé.
Camille Borin ?
Oui, c'est ça. Oui, non, mais si vous voulez, moi, je trouve que dans les films de super-héros, on est plus dans le registre de la métaphore. Alors que peut-être que dans les comics, les sujets sont plus frontalement abordés. Par exemple, au moment où Bush était au pouvoir, vous aviez le comics Ultimates, qui mettait en scène Bush, qui racontait une histoire parallèle des Avengers embauchés par le gouvernement Bush, et celui-ci était clairement représenté. Quand vous voyez, par exemple,
ça, c'est pas d'ailleurs une nouveauté. William Blanc parlait tout à l'heure de Nixon, alors on le voyait, ouais, pas.
Oui,
mais Kennedy, même Obama, ont été dans des comics.
Oui, mais de manière plus, par exemple, Barack Obama, c'était pas pour critiquer sa politique.
Non.
Tandis que là, Bush, il était représenté pour critiquer, entre autres, la guerre en Irak. Vous aviez, d'une certaine manière, chez Watchmen, alors c'est un peu différent parce que ça raconte une uchronie, donc une histoire imaginaire, mais vous aviez ces questions-là aussi qui étaient posées à travers Nixon, qui, dans cet univers-là, en était à son quatrième ou cinquième mandat, par exemple.
Mais donc, si je comprends bien, dans ces comics, dans les bandes dessinées, qui sont un peu plus, qui ont des charges politiques un peu plus fortes, grosso modo, ce sont des bandes dessinées de gauche ou contre les gouvernements républicains aux États-Unis. Est-ce qu'il y a dans les comics un super-héros qui est franchement, non seulement républicain, mais aujourd'hui qui serait franchement pour Trump, ou qui serait franchement une incitation pour les lecteurs à aller dans cette direction ?
Alors, à ma connaissance, non. Après, ce que je trouve d'une certaine manière assez dommage, c'est justement que cette partie-là des électeurs de Trump ne soit pas représentée en dehors de la caricature. En fait, c'était un auteur, Chris Claremont, qui a pas mal travaillé sur les X-Men, qui disait que lui, s'il devait scénariser les X-Men actuellement, il créerait un mutant trumpiste, en fait. Enfin, moi, de ce que je lis, je trouve pas qu'il y ait une représentation de cette partie-là de la population d'un point de vue réaliste, en fait. Sinon, c'est fait de manière très caricaturale. Voilà.
William Blanc, cette question du vote des super-héros a quelque chose d'un peu ironique, mais a une pertinence dans l'histoire culturelle américaine. Est-ce que vous pensez, avec ce que vous nous avez dit, par exemple, sur Black Panther, ou ce que Camille Borin nous a dit sur Miss Marvel, que bientôt, dans quelques années, on se posera la question du vote de ces super-héros dans des pays africains, dans des pays arabes, partout sur la planète?
Oui, je pense que de toute façon, après, il y a eu une tentative de faire un Spider-Man, une espèce de variante de Spider-Man en Inde. Hein, donc, parce que je pense que, encore une fois, faut voir à la fois le côté culturel et puis le côté tout bêtement économique. Hein, des firmes comme Marvel, en fait, on voit parfaitement que la Chine et l'Inde sont d'immenses marchés, en fait, où ils vont pouvoir vendre des comics. Donc, ils vont, à mon avis, créer des super-héros dans ce sens-là. Et je pense que même Miss Marvel, la nouvelle Miss Marvel, c'est aussi une tentative dans ce sens-là, en fait, hein, notamment d'envoyer des comics donc dans le monde, dans le sous-continent indien. Juste pour revenir sur les super-héros de droite, il y en a, en fait. Après, ça dépend de l'interprétation qu'on en a. On peut parfaitement interpréter Captain America de Civil War comme un libertarien, en fait, hein, très nettement. Donc comme un trumpiste, en fait. Hein, donc c'est pareil pour le Captain America d'Ultimate. Hein, donc c'est une question d'interprétation. Et puis vous allez avoir des super-héros comme Punisher, hein, qui est un super-héros qui apparaît au début. C'est d'ailleurs un super-vilain qui apparaît en 1974. Et puis qui devient un type. Alors c'est un type qui devient un super-héros dans les années 80 et qui porte des armes sur lui, des armes à feu, et qui, quand il trouve un criminel, il le tue, en fait, avec un pistolet ou un fusil d'assaut, voire avec un lance-missile. Hein, donc ça s'inscrit dans tout le processus, hein, notamment de politisation de la question du port d'armes aux États-Unis avec des groupes comme la NRA, où là pour le coup, le Punisher lui s'inscrit complètement là-dedans, en fait. Hein. Et alors après, ça dépend. Il va y avoir des auteurs qui vont montrer le Punisher comme étant une espèce de type. En plus, c'est un vétéran qui a fait le Vietnam, comme une espèce de sociopathe qui est mal dans sa peau et qu'il faut aider. Ou des gens qui vont dire en fait, ce type-là est un héros. Et puis, il faut le mettre en avant. Et donc, le Punisher, vous avez un personnage qui est très 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 ambigu. Et c'est pas le seul, en fait. Hein, donc, notamment des super-héros comme Cable, hein, qui apparaissent dans les années 90, c'est des personnages assez ambigus, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi cette diversité dans le monde des comics. Voilà. Après, ça dépend aussi de l'auteur qui va s'emparer de ça, en fait, hein, très nettement. Mais il faut pas oublier, il y a aussi une question de démographie, en fait. Hein. Les auteurs de comics écrivent pour un public en grande partie jeune, urbanisé, voilà, qui porte assez nettement du côté des démocrates. Voilà, alors que les électeurs de Trump, hein, sont voilà assez nettement plus âgés et tout. Donc il y a aussi cet aspect-là, en fait, hein, qu'il faut prendre en compte.
Eh bien, on verra au milieu de la semaine pour qui les super-héros ont voté, si leur vote a réussi à influencer les élections. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle le titre de vos ouvrages, William Blanc, Les super-héros, une histoire politique, aux éditions Libertalia, et Camille Borin, Robin, enfance et super-héros, aux éditions Aédon. On a commencé avec Donald Trump qui se prenait pour Superman et on termine avec un duo étonnant, Willie Nelson et Snoop Dogg, I am not Superman. Too many pain pills, too much pot, trying to be something that I'm not Superman. Le Rayon BD, comme chaque semaine, était préparé par Pascaline Bonnet et réalisé par Alexandre Manzanares. À la technique aujourd'hui, Déborah Dagobert. L'émission est bien sûr à réécouter, à télécharger sur franceculture.fr. Vous trouverez aussi toutes les références des ouvrages mentionnés aujourd'hui. Et dans quelques instants, vous retrouvez Charles Danzig pour Personnage en personne. I'm trying to do more than I can, I gotta let out a hand, I wasn't Superman. I hear you, dig it, play wild. Make it, go ahead. Play it with it. Yeah. Go ahead, Willie. Well, the doctor.
doctor said, son, it's a crying shame, but you ain't Clark Kent and I ain't Lois Lane. You ain't Superman. You ain't Superman. Trying to do more than you can, got a little out hand. You ain't Superman. What do you think, Snoopy?
Well, when I die, put it on my stone. God said, Snoopy, take your badass home. You wasn't Superman. No, I wasn't Superman. I'm trying to do more than I can. I got a little out of hand. I wasn't Superman.
I hear you. Trying to do more than I can. I got a little out of hand. I ain't Superman.
Yeah.